Prenons nos Bibles une fois de nouveau et regardons ensemble dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 6. Nous reprenons à partir du verset 13 et mon texte sera du verset 13 jusqu'au verset 20. Et je voudrais vous parler des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. C'est de ça que l'écrivain parle ici dans le verset 13, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » C'est une citation du passage dans le livre de Genèse, le chapitre 22, le verset 17, lorsqu'il avait promis à Abraham une postérité et que dans cette postérité, il allait bénir toutes les nations de la terre. Il y a beaucoup qui comprennent mal cette promesse de Dieu. Ils pensent que la promesse se situe dans la nation d'Israël. Et il dit, si nous continuons à soutenir la nation d'Israël, alors nous serons bénis en tant que peuple. Mais la postérité dont il parlait n'était pas la nation d'Israël. Nous allons voir ça tout à l'heure. Cette postérité promise à travers Abraham, bien sûr, ça devait venir de ce peuple d'Israël, mais la postérité s'agit de Christ. Et c'est pourquoi l'écrivain ici écrit aux Hébreux pour leur montrer la supériorité de Christ, celui qui est venu accomplir tout ce que Dieu a promis pour le salut de son peuple. Et donc, c'est écrit verset 15, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution intervient par un serment, afin que par deux choses immuables, les deux choses immuables, c'est d'abord la promesse de Dieu, et comme si cela ne suffisait pas, Dieu lui-même a prêté serment en plus. Il a juré d'accomplir tout ce qu'il a promis. Donc voilà les deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nous trouvons un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur, toujours selon l'ordre de Melchizedek. Alors, dans les versets précédents que nous avons étudiés, nous examinions les raisons pour lesquelles les élus de Dieu trouvent une forte consolation. C'est ce que nous avons étudié la dernière fois. Une forte consolation en ce qui concerne le salut en Jésus-Christ. Que le salut est de Dieu du début jusqu'à la fin. Et c'est pourquoi l'auteur écrit, comme nous avons lu dans le verset 18, nous trouvions en tout ce qui est écrit ici un puissant encouragement. Mais ce n'est pas pour tous les êtres humain, ce n'est pas pour tout le monde. C'est écrit, nous, dans le seul refuge. Il y en a qui prétendent croire en Christ, mais ils croient que c'est une coopération entre Christ et, en plus, ce qu'ils font, et qu'ensemble, on arrive au bout. Notons bien la manière que c'est écrit ici, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Comment nous avons pu saisir cette espérance? C'est pas la grâce de Dieu. C'est pas l'œuvre de l'Esprit en nous. Autrement, nous serions comme tous les autres religieux poursuivant tel ou tel chemin, tout en professant être à Christ, mais en fait, pensant que c'est par nos œuvres ou bien par notre volonté propre que nous sommes en train d'avancer. Donc, nous allons continuer aujourd'hui à regarder ce qui est pour moi la plus grande consolation de tout ce que nous avons étudié jusque-là, et ça concerne les promesses de Dieu. Paul lui-même, dans 2 Corinthiens chapitre 1, en ce qui concerne les promesses de Dieu, et quand on parle des promesses de Dieu, une promesse est ce que Dieu lui-même a avancé et que Dieu lui-même a déclaré, ce que Dieu lui-même a décrété faire. Et ça ne peut pas être changé. Nous retournons au début, même dans la chute d'Adam, et nous voyons là une promesse de Dieu, que Dieu allait susciter une postérité de la femme qui devait écraser la tête du serpent et de la postérité du serpent. Voilà une promesse faite là dans le jardin depuis la chute. Et quand nous continuons à lire à travers l'Ancien Testament, nous voyons d'autres promesses que Dieu a faites avec Noé et avec Abraham, avec David. Et ce sont ces promesses dont Paul parle ici dans 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 20, lorsqu'il dit, c'est 2 Corinthiens, pas 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 1 et le verset 20. Lorsqu'il dit ici, et car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, l'ensemble des promesses de Dieu, notons, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. Le oui et l'amen. C'est pour dire que ce que Dieu promet est sûr et certain. Et donc, ici dans le verset 13, l'auteur se réfère à cette promesse faite à Abraham. Si nous regardons dans Genèse chapitre 22 et le verset 17, que j'ai cité tout à l'heure, mais maintenant nous lisons ce passage. C'est écrit que Dieu a dit à Abraham, Genèse 22, 17, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Et c'est ainsi qu'il a dit dans le verset 18, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Donc, de quelle postérité Dieu parlait-il ici? Heureusement, nous avons un passage dans le Nouveau Testament pour nous aider à comprendre, dans Galates chapitre 3. Et le verset 16, c'est écrit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham. » Donc, ici, c'est au pluriel, Dieu a continué à rassurer Abraham qu'il allait avoir cette postérité qui devait commencer par son fils Isaac. Et puis, de là, maintenant, les années allaient passer dans ses descendances jusqu'à Christ. Donc, c'est pourquoi Paul dit ici, Galates 3, le verset 16, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit, et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, notons, c'est-à-dire Christ. Si nous lisons la Bible, les Écritures, et nous tirons d'autres conclusions que comment ces Écritures s'appliquent à Christ, donc nous n'avons pas bien lu ou compris les Écritures. Et c'est ainsi que je dis aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que la nation d'Israël, les descendants physiques d'Abraham, c'est ça le peuple béni de Dieu, et que tout ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui à travers cette nation, c'est comme une parenthèse. Bien sûr, il est en train de travailler, œuvrer maintenant dans d'autres nations, mais selon beaucoup qui interprètent mal les Écritures, ils prêchent que, voilà, cette nation d'Israël reste toujours le fils préféré de Dieu, et que le jour viendra où maintenant l'Église sera enlevée et Dieu reprendra encore son programme avec le peuple d'Israël. Ça, c'est une interprétation très populaire dans la prédication aujourd'hui. Mais si nous lisons ce que Paul dit, que toutes ces promesses de Dieu ne s'agissaient pas de postérité comme s'il s'agissait de plusieurs, c'est-à-dire des enfants d'Israël selon la chair, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, c'est-à-dire et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voilà l'interprétation de ces promesses. Alors, il y a deux points que je voudrais mentionner. Et le premier, c'est que c'est pourquoi nous devons nous encourager et nous ne devons pas nous décourager. Parce que, premièrement, les promesses de Dieu sont fidèles. Les promesses de Dieu sont fiables. Voilà ce que nous sommes en train de voir ici. Et même en ce qui concerne notre salut, le fait que nous croyons en Christ aujourd'hui et nous voyons que Christ est la satisfaction de Dieu à la place de ceux que Dieu a choisi pour le salut. Comment est-ce que nous pouvons alors avoir cette confiance dans le salut? C'est parce que les promesses de Dieu sont fiables. Quand Dieu a fait même une seule promesse à Abraham, et comme c'est écrit ici, il ne pouvait jurer par personne de plus grand que lui-même. Alors il a juré par lui-même en disant, comme nous venons de lire, que je vous bénirai certainement et je vous multiplierai en vous multipliant. C'est ainsi que dans notre texte, bien sûr, cette promesse n'est pas réalisée immédiatement, mais comme le verset 15 dit, c'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré, on peut marquer du moment où Dieu a promis cette postérité à Abraham, il n'avait pas de postérité physique. Et il y a près de 25 ans qui ont passé avant que Abraham a vu la réalité de cette promesse physique en lui donnant le fils Isaac. Mais pendant tout ce temps, Abraham a continué à regarder, attendre, dans la persévérance, pour que Dieu accomplisse sa promesse. Et c'est de ça que ça parle après avoir patiemment enduré. Nous savons que cela ne venait pas d'Abraham lui-même. Ça, c'est l'Esprit de Dieu en lui. Mais ça exigeait une saison d'endurance patiente. Et pendant ce temps, certainement, des difficultés, des moments où nous savons qu'il devait peut-être être découragé, mais en aucun cas il n'a pu oublier la promesse de Dieu que Dieu lui a faite. Et voilà pourquoi nous pouvons aussi, en ce qui concerne nos vies spirituelles, si nous sommes des descendants d'Abraham dans ce sens, ces vies spirituelles, qu'il y a des moments de découragement. Il y a des moments où même on peut se poser la question de savoir si nous sommes effectivement enfants de Dieu ou pas, vu les attaques de l'ennemi contre nous et contre nos âmes. Mais qu'est-ce qui nous garde? En quoi est notre confiance? Ce passage nous enseigne que Dieu est fidèle à sa promesse. Et nous savons que Christ lui-même a dit que tous ceux que le Père lui a donné viendront à lui et il ne peut perdre aucun de ceux que le Père lui a donné. Donc nous avons certainement en cela la même confiance qu'Abraham a dû avoir puisque c'est Dieu lui-même qui a promis. Et comme je disais tout à l'heure, les deux choses immuables que l'auteur mentionne ici, il donne l'exemple sur les hommes. Si les hommes jugent par celui qui est plus grand qu'eux, quand ils prêtent serment, souvent en mettant la main sur la Bible, les hommes sont en train de prêter serment basé sur Dieu. Souvent, ils invoquent le nom de Dieu en prêtant serment pour ceux qui, les affaires sérieuses. Mais, qui alors, quand Dieu donne la promesse, comment est-ce qu'il va prêter serment d'assurer que cette parole se passera effectivement? En qui est-ce que Dieu peut maintenant prêter serment parce qu'il n'y a pas de plus grand que lui? Alors c'est pourquoi le verset 17 nous montre que c'est deux choses immuables dans le verset 18. Les deux choses immuables dans lesquelles il est impossible pour Dieu de mentir. Alors encore, Dieu ne peut pas mentir. Dieu n'est pas comme l'homme de dire certaines choses et puis retirer maintenant sa parole, non. Mais les deux choses impossibles dans lesquelles il est immuable, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, ces deux choses, c'est d'abord sa parole. C'est pourquoi nous avons cette parole ici qui nous est préservée, inspirée de Dieu lui-même, dans lesquelles nous voyons tout ce qu'il a promis en ce qui concerne le salut de son peuple. Mais en même temps, il a prêté serment, comme si la parole ne suffisait pas. La parole suffit, mais pour nous rassurer encore davantage, il a encore prêté serment de nous rassurer que tout ce qui est écrit est vrai et certain. C'est pourquoi nous pouvons nous confier en lui. Cela nous montre clairement que notre consolation, cette forte consolation, ce qui est notre encouragement, n'est pas en nous. Si nous devons nous fier à nous-mêmes ou bien à notre fidélité, alors nous pouvons dire que nous avons déjà échoué. Mais cette forte consolation que nous avons dans la parole de Dieu, c'est que Dieu lui-même accomplit ce qu'il a dit. Et cette consolation, donc, ne dépend pas de nous, ni d'une justice de notre part, ni de notre sainteté, mais plutôt de Dieu et de tout ce qu'il a accompli à travers son Fils, le Jésus-Christ. Et c'est de lui, de Christ, qu'il parle ici. Nous ne devons pas retourner à la loi pour chercher dans la loi notre consolation. Mais c'est écrit dans le verset 18, nous trouvions un puissant encouragement dont nous, dans le seul refuge. Beaucoup de ces images sont tirées de l'Ancien Testament. Et nous savons que Dieu a établi pour Israël ces villes de refuge où ceux qui se rendaient coupables pouvaient courir et entrer dedans. Et dans chacune de ces villes, il y avait un souverain sacrificateur qui devait écouter le cas de chacun et prendre la décision, le jugement de sauver ou bien de condamner. Mais aussi longtemps que le souverain sacrificateur a encore donné cette parole et a promis à ceux qui ont couru et a écouté leur cas, qu'aussi longtemps que la personne restait dans cette ville, ne sortait pas, restait là pour le reste de sa vie, aussi longtemps que le souverain sacrificateur était en vie, alors il était protégé. Voilà l'image que nous voyons ici, nous dont le seul refuge, nous sommes coupables en nous-mêmes, nous sommes comme ceux qui ont couru dans une de ces villes, et nous avons saisi l'espérance qui nous était proposée. Là encore, ce n'est pas seulement comme les gens prétendent que c'est une invitation à venir. Non, une proposition ici, c'est un décret de Dieu. Et c'est basé sur son décret que nous avons cette espérance en lui. Alors les promesses de Dieu sont sûres et certaines parce que Dieu lui-même est fidèle à sa promesse. Ça, c'est le premier point. Mais deuxièmement, dans le temps qui nous reste, dans les versets 19 et 20, voilà encore une consolation. Pourquoi nous ne devons pas nous décourager? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est décrit ici comme celui qui nous a avancé, comme le précurseur, c'est écrit dans le verset 20, Jésus est entré pour nous comme précurseur. Donc, notre espérance du salut, quel espoir est-ce que nous avons de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu une fois que nous avons terminé notre séjour ici sur la terre, selon le nombre d'années que Dieu lui-même a ordonné pour chacun de nous. Je dois vous dire que mon espoir, mon espérance n'est en autre que celui qui m'a déjà dévancé, le Seigneur Jésus, et que c'est lui qui est là comme le précurseur qui est entré, celui qui dévance les autres et qui est entré pour nous. Il s'agit là de sa venue dans ce monde et il a vécu sa vie en obéissant à toute la loi et la justice de Dieu. Il est mort, il a donné sa vie et puis il est ressuscité et monté au ciel. Et c'est ainsi qu'il nous a dévancé. Il a fait tout cela pour ce que le Père lui a donné. C'est pas pour tout le monde. Alors, c'est de ça que l'auteur dit dans le verset 19, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. C'est intéressant, encore ici, les termes qui sont utilisés. Ce n'est pas quand la mer est calme que nous avons besoin d'une ancre, mais c'est plutôt dans des moments rudes que l'ancre alors est importante. Et nous avons besoin de cet encre pour le but d'une encre, c'est de retenir le navire et l'empêcher de faire un naufrage. Il s'agit là du salut, que notre salut est aussi sûr et certain que le navire dans lequel nous sommes en train de vivre. Nous savons que ce navire n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes aussi sûrs, nous sommes en sécurité autant que le navire reste ferme, comme dans l'arche de Noé. Ça ne dépendait pas de Noé et sa famille de les garder pendant le naufrage, mais c'était l'arche qui les gardait. Et cette arche représente le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous avons besoin de l'ancre pour stabiliser le navire, ça c'est le but de l'ancre, et de garder en sécurité les personnes qui sont à bord. Et nous avons besoin de cette ancre de pouvoir assurer le progrès dans notre voyage ici dans ce monde, à travers les perturbations de ce monde et même de notre péché et les ennemis du monde et autres choses. C'est Christ qui est cet ancre pour l'âme, dont on commence à écrire dans le verset 19. Ça, ce n'est pas simplement une foi intellectuelle, mais c'est lui qui retient l'âme. Ce n'est pas le navire qui tient l'ancre, mais c'est l'ancre qui tient le navire. Et donc, aussi longtemps que l'ancre reste ferme, ainsi, le navire ne pouvait pas être perturbé. Alors, nous sommes encore ancrés, si vous voulez, sur cette terre, et c'est ça que l'ancre fait, ça nous garde à travers toute perturbation, mais plus que ça, nous avons une ancre dans le ciel. Vous voyez, l'image que nous voyons est que c'est Christ qui est cette ancre et qui nous assure notre passage sûr et certain au ciel, au moment que nous devons traverser et quitter ce monde pour y entrer. Mais notre assurance, c'est que le Seigneur Jésus lui-même, dans le verset 20, est entré déjà pour nous, comme le précurseur. Tout ce langage que nous lisons ici est utilisé des souverains sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Quand c'est écrit là, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, et l'idée ici, dans le verset 19, qui a déjà pénétré au-delà du voile, ça c'est un langage de l'Ancien Testament concernant le tabernacle ou le temple qui était à Jérusalem. Et le temple, surtout, et le tabernacle étaient construits de différentes parties. Il y avait le lieu saint dans lequel personne d'autre que les prédicateurs, les sacrificateurs pouvaient entrer et sortir en s'occupant des pains qui étaient sur la table et puis de l'encens qui brûlait là-dedans. Mais il y avait là un voile qui séparait le lieu saint d'avec le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, c'est là où se trouvait l'arche de l'Alliance. Et c'était interdit. Qui que ce soit, dit André, sauf le souverain sacrificateur. Même les Lévites ne pouvaient pas y entrer. C'était un souverain sacrificateur qui devait entrer, et là, une fois par an, et non sans avoir versé le sang. Et donc, tout cela devait représenter la sainteté de Dieu. Si vous, vous regardez avec moi dans Exode chapitre 26, donc les images que nous voyons ici dans l'Ancien Testament, nous voyons encore, sont décrites ici dans cette épître aux Hébreux comme ayant été accomplies par le Seigneur Jésus-Christ. Dans Exode chapitre 26, c'est écrit dans le verset 31, « Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin de toi. » Chacun de ces couleurs a une signification. Bleu, signifiant la divinité du Christ qui est venu du ciel. Pourpre, ça signifie la royauté du Seigneur Jésus-Christ en tant que roi. Et cramoisi, ça représente le sang du Seigneur Jésus-Christ qui devait verser afin de satisfaire la justice de Dieu et de faire l'un de tort, ça décrit, fin là, décrit la pureté du Seigneur Jésus-Christ. Et il sera artistement travaillé et donc il représentera des chérubins. Pourquoi? Parce que ça représente la présence de Dieu lui-même et les chérubins qui servent la gloire de Dieu nuit et jour. Et tu le mettras sur quatre colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur quatre bases d'argent. Et tu mettras le voile au-dessus des agrafes. Et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer, voilà, l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Et tu mettras le propitiatoire sur l'arche de témoignage dans le lieu très saint. Alors, en tout cela, nous voyons ici la sainteté de Dieu et ce voile devait continuer à faire cette séparation entre le lieu saint et le lieu très saint jusqu'à ce que Christ lui-même soit venu. Et nous savons que lorsque Christ est mort, le jour qu'il est mort, dans les évangiles, c'est expliqué que ce voile était déchiré du haut jusqu'en bas. Cela représente maintenant que Christ ayant accompli tout ce qui était déjà décrit de lui, il ne restait plus rien, il ne restait plus de séparation entre Dieu et ce peuple que, pour qui Christ est mort. Et donc le voile était déchiré du haut jusqu'en bas. Et cela nous montre que c'est Dieu lui-même qui l'a déchiré et non pas l'homme, parce que l'homme allait commencer par le bas, mais du haut jusqu'en bas. Et en d'autres termes, alors cette barrière entre le ciel et la terre, entre Dieu et les pécheurs qui lui appartenaient, était maintenant détruite. Grâce à la mort de Christ, il y a maintenant accès dans la présence de Dieu. C'est ça que l'auteur ici dans Hébreux 6 est en train de décrire. Accès au Père céleste. Et cela par le précurseur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus lui-même. Le mot précurseur, ça vient d'un terme militaire. C'est un homme, un soldat de reconnaissance militaire qui va d'avance et les autres alors suivent. C'est ça le sens ici. Dans Éphésiens chapitre 2, donc Christ comme le souverain sacrificateur est entré déjà. Et comme les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament, il portait les noms de ceux qu'il représentait sur leur poitrine. Donc, ce n'était encore pas pour tous les êtres humains, comme les gens prétendent, mais chacun de ceux-là que le Père a donné à Christ, qu'ils viennent représenter ce peuple devant Dieu, c'est ceux-là qui ont alors cette confiance en lui. Dans Éphésiens chapitre 2, nous voyons cela décrit. Dans le verset 1, c'est écrit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ici, il s'agit même des élus de Dieu. Bien sûr, Dieu a élu ceux qu'il allait sauver, mais l'élection en elle-même n'est pas le salut. L'élection assure le salut. C'est comme les promesses de Dieu, c'est ça qui assure le salut. Mais lorsque nous étions dans ce monde, nous étions sous la condamnation d'Adam, la condamnation de la loi, et pour cela, même étant élus morts par nos offenses et par nos péchés, et c'est écrit dans le verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois. Même les élus ne sont pas nés dans ce monde avec cette foi déjà en Christ. Mais dans notre nature, nous marchions selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc si on veut comparer un élu avec ceux qui sont, ne sont pas élus, dans leur nature, il n'y a pas de différence. Aucune différence. Nous tous, entendons bien, nous tous, dans le verset 3, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature, entendons bien, nature des enfants de colère. Ça ne dit pas que nous étions des enfants de colère. Parce qu'il y a ceux qui sont des vases de miséricorde et ceux qui sont des vases de colère, mais de nature, nous étions comme des enfants de colère, comme les autres. Donc, aucun de nous ne peut dire que, ah, Dieu m'a choisi parce qu'il a vu en moi quelque chose de bien. Non. Mais Dieu, voilà la différence. Mais Dieu, dans le verset 4, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Qui sont les élus, si ce n'est ceux envers qui Dieu a promis et Dieu décrété qu'ils seront des objets de miséricorde et à cause de son grand amour, la manière que c'est écrit, dont il nous a aimés. Le temps là, c'est dans le sens qu'il a aimé et continue à aimer. Rien n'a changé dans son amour, quoique nous étions des pécheurs comme les autres. Et voilà la partie que je voudrais qu'on voit le rôle du Seigneur Jésus-Christ comme le précurseur. Parce que c'est écrit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu à la vie avec Christ. De quoi il parle là? Ici, il n'est pas en train de parler de la régénération. Bien sûr, nous sommes rendus à la vie par l'Esprit au moment pourvu par Dieu lui-même. Mais ici, dans ce contexte, quand il dit « nous a rendu à la vie, notons, avec Christ », cela veut dire que, ayant nos noms déjà inscrit sur le vêtement de Christ en tant que souverain sacrificateur, lorsque Christ est ressuscité, donc, comme notre substitut étant élu de Dieu, nous étions aussi rendus à la vie avec lui. C'est par grâce alors que vous êtes sauvés. Tout dépend alors de l'œuvre de Christ. Il nous a ressuscité, notons, ensemble. C'est pourquoi je dis, il ne s'agit pas ici de la régénération, de rendre individuellement chaque élu à la vie par l'Esprit. Ici, il nous a ressuscités ensemble en tant que précurseurs et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Cela démontre déjà que Christ, en tant que précurseur, qui est venu et donné sa vie, et il a passé au-delà du voile, dans la présence de Dieu lui-même, cette promesse alors est pour tous ceux pour qui il est venu. Derrière le voile, voilà où il est aujourd'hui. Et si nous sommes de ceux pour qui il est mort, nous pouvons dire que nous sommes assis avec lui, dans notre position, nous sommes assis avec lui dans les cieux. Et voilà notre confiance. Alors, c'est pourquoi l'auteur, ayant fait ses remarques, il revient encore sur Melchizedek. C'est comme s'il y avait une petite parenthèse, parce que, rappelons-nous, dans Hébreux chapitre 5, et le verset 6 à 10, il a déjà fait mention de Melchizedek, verset 6, Hébreux 5, comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. » Et il dit, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, le voilà encore, comme le précurseur, est devenu pour tous ceux qui y obéissent, l'obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrateur selon l'ordre de Melchizedek. » Alors voilà, finalement, nous arrivons au chapitre 7 que nous allons regarder la prochaine fois, la comparaison entre Melchizedek et le Seigneur Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur. Mais quelle consolation que nous avons en Jésus-Christ à cause des promesses de Dieu. Les deux choses immuables, sa promesse, mais aussi son serment. Il a juré, et c'est ça qui est la garantie alors de notre salut en Jésus-Christ. Amen.